Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Boudelux Paris, l'édition du week-end. Vous le savez désormais, Boudelux Paris, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je vous retrouve à 13h en solo et en direct. Et quand le week-end arrive enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, honneur au métier d'art. C'est le moment ou jamais de vous intéresser à tous ces savoir-faire, à tous ces artisans d'art. Vient de s'ouvrir, par exemple, l'expo Double Jeu au Palais de Tokyo. Et puis, les premiers 2 et 3 avril prochains, ce seront les journées européennes des métiers d'art, durant lesquels les ateliers vous ouvrent leurs portes et les événements se multiplient. Au Musée des Arts Déco à Paris se tiendra par exemple l'empreinte du geste, un peu plus qu'une expo, qui met à l'honneur une vingtaine de créateurs, dont le taxidermiste Mathieu Milivjavac et la relieuse Célia Kazak. Nous les recevrons dans un instant avec le commissaire de l'exposition et le mécène, la manufacture horlogère Vacheron Constantin. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et bonjour Emmanuel, et comme traditionnellement, on commence avec la nouvelle table de la semaine. Vous nous l'aviez annoncée au Royal Monceau, et alors ?
Elle arrive, alors c'est la presque table de la semaine. La table de la semaine, parce qu'elle était très attendue, c'est le retour à Paris de Nobu Matsushita. Nobu Matsushita, c'est un chef japonais qui est devenu l'une des grandes références mondiales de cette cuisine mondialisée, une icône contemporaine. Et on est un peu déçu, on est même carrément déçu. Pourquoi ? Parce que je pense que il y a 20 ans, Nobu avait vraiment instillé une nouvelle manière de cuisine, cette fameuse cuisine dite fusion. Alors lui, il partait de sa matrice japonaise pour la frotter au Pérou, pour la frotter au Japon, avec des lieux qui étaient des lieux très show-off. Tout cela a vraiment pris de la ride dans la paillette. Et 20 ans plus tard, comment vous dire ? C'est un petit peu, c'est ce que j'ai dit cette semaine dans une chronique d'ailleurs sur BFM Business, c'est un peu comme si Sarkozy nous refaisait sa campagne présidentielle de 2007 en 2016. Ça va pas. Les saisons du bling sont passées, les nuits du Phuket aussi. Aujourd'hui, le décor est un peu déjà vu. La cuisine est très bien faite, mais un peu pelliculée, un peu ourlée. Alors des sushis, oui, tout à fait correct. Quelques plats, encore une fois, de fusion, très dans le grammage, très esthétisant. Mais une addition qui ne correspond plus. Mais qui ne correspond plus du tout à la saison. Pour deux, sans forcer, c'est environ 250-300 euros. Pour le même prix, tant qu'à brûler, glisser dans le plafond, vertige de l'addition, il y a aujourd'hui des grands restaurants parisiens qui seraient à vendre, Jean-François Piège, Le Doyen, Georges V. Là, Nobu a raté il y a 15 ans son arrivée parisienne, ça avait été un capotage, Paris n'était pas prêt. Il la rate encore aujourd'hui parce que désormais Paris a une scène d'avance, une longueur d'avance. On va lui laisser le temps de se roder, mais non. Et puis dans la salle, les seuls stars, c'était Gérard Jugnot et José Garcia, c'est vous dire. C'est un peu comme s'il croyait encore à l'esprit canal.
Matsushita, si vous voulez dépenser votre argent, allez voir au Royal Monceau. Allez vous faire votre propre idée. Tout à fait. Allez, deux nouveaux lieux pour sortir rapidement de style complètement différent. Vous connaissez peut-être les Niçois, ambiance provençale à Paris. Ils ont déjà différents lieux. Et donc, ils lancent le Riviera, un bar-resto-club et un bar éphémère. Ça durera juste un an. Enfin, c'est vraiment une adresse du soir. Hein. C'est pour ça que je vous dis une adresse où sortir. De Villa Godelet dans le 11e arrondissement.
Ah, c'est très bien.
Voilà,
j'ai pratiqué
food.
Moi cette semaine, j'ai fait des inaugurations.
Donc c'est bien, finger food, DJ set, ouais, bonne ambiance.
Oui, plutôt bonne ambiance. À mon avis, ça va vraiment prendre avec le printemps. Il faut dire que les Niçois, c'est un petit bistrot qui était un peu très éloigné de Paris, qui a bien pris. Là, je pense qu'ils vont réussir leur coup parce qu'il y a vraiment un bon public. Ils mélangent les codes du club anglais avec cet esprit un petit peu Riviera, un petit peu, c'est un peu barré, ça part un peu dans tous les sens, mais ça fonctionne.
C'est parti pour un an de folie, il l'annonce comme ça, voilà.
Ah non, je sais pas, mais en tout cas, on peut leur garantir un printemps et un été.
Non, mais ça ferme le 31 mars 2007, c'est déjà annoncé.
Oh, on n'y sera plus, on sera passé à autre chose.
C'est éphémère. Allez, autre rendez-vous, là on est vraiment dans le club, ça se passe sous le Café Oz au Châtelet, dans le premier arrondissement, il y a plusieurs Cafés Oz. Là, c'est 250 mètres carrés, 300 personnes, c'est véritablement un club, un nouvel espace clubbing, ambiance assez atypique, australienne, vous voyez, avec...
Ah oui, Café Oz.
Voilà, exactement, puisque c'est une adresse australienne, donc chaque vendredi, chaque samedi, ambiance chic, festive, et on retrouve donc des bières importées d'Australie, enfin tout ce qui fait l'ambiance australienne.
On va dire qu'il fallait le citer.
Il fallait le citer, voilà, ça fait partie des nouveaux lieux pour sortir, mais pour l'heure, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le web?
Pas mal de choses. Tout d'abord, cette nouvelle plateforme qui s'appelle luxury-technologie-au-pluriel.com. C'est une marketplace qui est vendue comme la place Vendôme du high-tech, objet connecté, robotique. On trouve ici de tout ce que sera le futur. On en rêve ou on en désespère par avance. En tout cas, on va être surpris. Il y a quatre catégories, donc beaucoup d'univers possibles. Le style, la maison, les loisirs, la santé. Et puis, cette dernière catégorie qui s'appelle l'extraordinaire, c'est de l'extra luxe. Premier objet classé dans cette catégorie, une robe, fabrication française. Quand on la touche, elle scintille. Ça donne l'impression
donc ce sont uniquement des objets connectés et des objets high tech.
Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus classiques. Fabrication française, quand on la touche, elle scintille. Ça donne l'impression
donc ce sont uniquement des objets connectés et des objets high tech.
Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus. Si ça nous débarrasse, acheter aussi quand on a un coup de cœur. Et puis il y a deux formules. Une formule avec concierge. Et donc là, c'est vraiment les équipes de Dresswing qui vont s'occuper de tout.
C'est ça qui est hyper intéressant. En gros, vous vous dites, j'ai un placard qui déborde, vous les appelez, qu'est-ce que je fais?
Voilà, et ben là, ils viennent chez vous, ils prennent les photos de ce que vous voulez louer, vendre, ils les mettent en ligne. Il s'occupe de la vente. Ah, vous n'avez rien à faire.
C'est pas mal.
Oui, ça c'est pas mal.
Ça c'est bien.
Alors ça, pour le coup, ça coûte un petit peu quelque chose. Ils prennent une commission de 30%. En même temps, sans eux, la commission, elle est de 20%. Alors moi, je me dis, on rajoute 10% et puis on fait rien, quoi.
C'est vrai.
Voilà. L'un dans l'autre, voilà. C'est un choix. Et allez, puis on va voyager un petit peu.
Bah oui, on voyage avec le nouveau site d'Air France. Vous en avez sûrement entendu parler. Ça s'appelle travelby.airfrance.com. 89 destinations pour le moment à découvrir. Au-delà des destinations à découvrir, il y en a deux nouvelles par mois à partir du mois prochain. Mais il y a aussi tout ce qui s'appelle le carnet c'est le carnet de voyage. On va pouvoir véritablement s'organiser, réserver depuis cette plateforme son billet d'avion, télécharger des contenus éditoriaux, puisque c'est ça aussi le principe, c'est de développer la partie éditoriale du site Air France qui est pour le moment que de la réservation. On s'organise en amont, pendant, après le voyage, si on veut continuer. Voilà, c'est sympa.
D'ailleurs, ils le vendent véritablement comme un magazine digital.
Oui, c'est ça, c'est complètement un magazine digital. Oui, complètement.
Voilà. Se retrouver au
parti, allez, moi je prends l'avion.
Merci
allez, c'est ça.
À la semaine prochaine. Allez, on va s'ancrer de nouveau dans le terroir parisien.
Avec Terroir d'Avenir, on en a souvent parlé dans cette émission. Terroir d'Avenir, vous savez, c'est une manière de plateforme des activistes alimentaires qui réunissent quelques-uns des meilleurs éleveurs, meilleurs producteurs, meilleurs artisans de bouche français. Ils sont situés rue du Nil. Alors, ils avaient déjà une boucherie, ils avaient déjà une poissonnerie, une épicerie. Voilà, qui viennent d'ouvrir.
Ils avaient commencé par les primeurs, surtout.
Exactement, les primeurs, tout à fait. Et là, ils viennent d'ouvrir, il y a quelques semaines, quelques mois même, deux mois, on est un peu en retard, bon. Une boulangerie, toujours rue du Nil. Et ça incarne véritablement ce qu'est la nouvelle boulange. En fait, dans la nouvelle boulangerie parisienne et française en général, on parle moins des formes de pain, le bâtard, la ficelle, la meule, la miche, tout ce que vous voulez, mais que le fond des pains. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des gens qui vont aller sourcer les farines, des farines bio issues des meilleures céréales. Ces céréales, ce sont des céréales paysannes. Et ensuite, il va y avoir un accompagnement avec toute la transformation, c'est l'instant de la meule. Là, ils travaillent avec des petits artisans qui vont garder, au moment de la meule, ou lorsque l'on moule le grain, l'intégrité de ce produit. Et pour tous les soucis, sincèrement, des gens qui ont des problèmes de gluten, avéré ou pas. Très sincèrement, quand il y a cette traçabilité, c'est vraiment des filières courtes. Hein. Terroir d'avenir, c'est toute cette agriculture raisonnée, bio, filière
courte. Mais on a moins d'intolérance.
Ah, mais très sincèrement, pour vous le dire, c'est quelques farines qui sont des farines d'exception, des farines d'élite aujourd'hui. Très sincèrement, vous n'avez aucune intolérance. Et puis derrière, tout de même, certes, un beau savoir-faire d'artisan, des vrais boulangers, et puis ce qu'on appelle la pâtisserie de la boulange. On n'est pas chez des pâtissiers, mais alors des viennoiseries d'exception, des tartes.
Ah, arrêtez, stop.
Très sincèrement, vous allez voir une tarte bourdaloue, c'est-à-dire la tarte aux poires avec, vous savez, cette frangipane, cette petite crème d'amande. Là, il a la pointille de quelques petites pépites de chocolat. C'est une grande, un grand dessert boulanger. Superbe adresse.
La boulangerie Terroir d'Avenir, c'est rue du Nil, donc dans le 2e arrondissement de Paris. Allez, pour éliminer tout ça, je vous propose une petite séance de sport, Emmanuel. C'est mon objet de la
semaine.
Excusez-moi,
j'ai toussé. Des cours de sport,
c'est
je tousse.
C'est un skateboard. Et pourquoi un skateboard? D'abord parce que pourquoi pas le skateboard?
Pourquoi
c'est
pas
hyper tendance. Et surtout, celui-ci, c'est un petit coup de cœur. Il s'appelle Skate.
Écrit à la française.
Voilà, Skate avec
un petit accent circonflexe.
Et surtout, il est fait dans les Yvelines. Oui, monsieur. Un jeune homme qui a travaillé 7 ans comme luthier. Ça, c'est lui qui fabrique. Après, ils sont 4 en tout à avoir monté cette petite entreprise à la ferme neuve de Crépière. Donc voilà, c'est en pleine campagne. Et depuis septembre dernier, ils fabriquent ces skates-là que vous retrouvez bien sûr sur leur site internet. C'est une planche de chêne massive, une quinzaine de jours de fabrication et c'est genre les planches américaines des années 60 pour le style.
Bah ouais, c'est les planches originelles.
C'est conçu pour la balade en termes skate, on dit le cruising. 119 euros la planche complète.
C'est un petit peu les labels paysans, là, désormais. Ils sont dans une ferme, vous m'avez dit. Alors, ils font des skateboards, il a une formation du bois, puisqu'il a une formation de luthier, mais dans le même temps, je crois qu'ils font quoi d'autre?
Ah, mais parce qu'à côté, ils font d'autres choses dans cette ferme. Vous réécouterez Good Luxe Paris, ils font aussi une biscuiterie voilà. Et ils ouvrent une miellerie. Ça s'appelle les deux gourmands. Mais enfin, tout ça, aujourd'hui.
C'est la génération transversale.
Exactement. Je vous parle du petit skate. Voilà. C'est l'occasion de vous mettre au sport. Ça va de
Paris
à Crépierre. Les parties sont
c'est sa génération. Sandy, revenez!
Allez,
cadeau.
Justement, puisqu'on parle de savoir-faire, on fait une petite pause sur BFM Business et on parle des métiers d'art. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des Good Luxe qui mettent les métiers d'art à l'honneur et les occasions ne manquent pas en ce moment. On s'arrête aujourd'hui sur l'empreinte du geste au musée des Arts Déco du 29 mars au 3 avril. Exposition, conférence, projection, j'en passe et des meilleurs. Et même un petit pop-up store. Pour en parler, nous sommes avec quelques-uns de ces exposants, artisans, créateurs et notamment un taxidermiste, Mathieu Miljavac. Bonjour.
Bonjour.
Également avec une relieuse d'art, Célia Casal. Bonjour. Et puis Éric-Sébastien Fornagorge. Bonjour, vous êtes commissaire de cette exposition. Une exposition maçonnée par la manufacture horlogère Vacheron-Constantin. Julien Marchenoir, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes le directeur de la stratégie et du patrimoine. Et vous-même, vous êtes engagé, enfin vous-même pas personnellement, mais en tout cas la manufacture Vacheron-Constantin est engagée depuis longtemps auprès des métiers d'art. Et vous avez en votre sein aussi d'un savoir-faire en la matière. On en reparlera dans un instant. Éric-Sébastien Fornagorge, qu'est-ce que c'est l'empreinte du geste? Pourquoi c'est quoi ce nom? On imagine bien, il y a le prix Bettencourt-Schueller pour l'intelligence de la main. On sent bien que quand on parle d'artisan, quand on parle de métier d'art, il y a ce geste
sémantique
de la main et du geste.
Ce main, bien sûr, mais il y a aussi autre chose, parce qu'il y a l'empreinte qui va à côté. C'est quoi le fil conducteur et l'idée de départ de cette exposition?
L'idée de départ, elle est d'abord d'entrer en résonance avec la thématique des Journées européennes des métiers d'art, qui est métiers d'art, gestes de demain, et donc d'expliquer pourquoi les métiers d'art sont des métiers pour demain. Donc on a vraiment voulu valoriser le fait qu'ils étaient des métiers qui plaçaient au cœur de leur démarche et d'un projet de société l'humain, donc ce qui interviendra dans l'exposition, et également le fait qu'ils sont au cœur d'une nouvelle forme d'économie collaborative et créative et réelle, surtout des métiers qui sont dans notre quotidien, qui crée les objets de notre quotidien. Et tout ça, on a voulu le valoriser à travers les activités annexes qui sont les conférences, les projections, mais également le pop-up store et un projet de financement participatif en lien avec une plateforme de crowdfunding.
Voilà. Ah, c'est vaste.
Exactement.
On parlait
on s'inscrit vraiment dans les métiers de notre temps. On va citer, il y a une vingtaine de créateurs.
18 exactement.
Exactement. Et voilà, des métiers aussi divers et variés que le verrier, la céramiste, ceux-là, on les connaît assez bien. Finalement, puis il y a des choses peut-être moins connues, plus étranges.
Plus étrange, plus surprenante, bah Mathieu fait partie des
voilà,
métiers.
Voilà, ça, mais lui, c'est peut-être le plus étrange,
le taxidermiste,
on le garde pour la fin. Mais
effectivement, on a voulu vraiment valoriser cette dimension humaine et donc dans l'exposition proposer une véritable galerie de portraits, puisque on en parlait tout à l'heure, l'empreinte du geste, c'est la trace que va laisser l'artisan d'art, la trace de son identité, mais également la trace des valeurs qui sont celles des métiers d'art, des valeurs humanistes et universelles. Donc le visiteur pourra parcourir ce labyrinthe de valeurs dans lesquels on trouvera ces 18 créateurs avec une sculptrice sur matériaux de synthèse qui travaille la cire, donc voilà parmi les métiers un peu étranges, un tourneur d'art sur bois qui a développé une technique tout aussi étrange de sablage
magnifique.
De dentelle de bois.
On dirait une certaine présentatrice, vous pouvez le refaire.
C'est magnifique tout ça. Non mais il y a des choses absolument extraordinaires, on n'imagine pas qu'on peut transformer la matière à ce point-là.
Non, le point de départ de l'exposition c'est exactement ça, montrer que les artisans d'art sont des gens qui cultivent ces savoir-faire autour de la matière pour la transformer, la sublimer dans des objets du quotidien.
Juste pour aller rapidement tout de même rappeler que métier d'art, c'est pas un mot jeté comme cela en l'air, ça a vraiment une réalité, un statut, une définition, on peut la rappeler très rapidement, puisqu'elle est quand même très orchestrée. Tout le monde ne vient pas, ne profite pas de ce label.
Non, elle vient justement d'être reconnue par une loi récemment promulguée avec une nouvelle liste de, on avait 217 métiers,
donc
avec des nouveaux métiers qui sont rentrés. Et on parlait de technique, un qui est extrêmement valorisé aujourd'hui, notamment à travers un dispositif tout aussi particulier, celui de maître d'art. Et donc avec Antonin Ponce-Bralet, qui est héliograveur et qui fait partie de ces métiers un peu surprenants. Donc effectivement, il y a une liste de métiers.
Maître d'art, c'est l'idée de transmission. Là, c'est encore
tout à fait.
C'est encore l'étape d'après.
C'est le statut au-dessus. Ouais. Vous le disiez, parce que derrière l'appellation métier d'art, même si on voit qu'elle résonne beaucoup dans le public, avec tout un tas de manifestations, de portes ouvertes tout au long de l'année, dont vous faites partie, on voit que le public a besoin, en tout cas est intéressé, est curieux de ça, veut aller de l'avant. Mais ce mot de métier d'art, et parfois la sémantique qui l'accompagne, renvoie un peu, même si vous vous combattez toute cette logique, un peu une certaine désuétude. On a l'impression que c'est très patrimonial, très loin le passé, alors que vous le dites vous-même, et vous venez de citer d'ailleurs un métier, on est aussi dans des nouveaux métiers d'art. Il y a véritablement des métiers d'art qui se créent, qui sont très contemporains. Vous parliez d'images ou d'objets de synthèse. On n'est vraiment pas sur des codes qui remontent à plus d'un siècle.
Non, pas du tout, justement. Enfin, c'est aujourd'hui la spécificité des jeunes artisans d'art est de s'asseoir quand même sur ces techniques extrêmement traditionnelles et de pouvoir les mener vers un avenir certain grâce à l'appropriation de nouvelles technologies ou tout simplement d'un nouveau mode de culture. Donc, il y a, je pense notamment à Mathias Kiss également dans l'exposition. Donc, lui qui est compagnon, qui était dans le domaine de la restauration, des choses extrêmement patrimoniales et qui aujourd'hui va dans une démarche extrêmement contemporaine, proche de l'art contemporain. Donc, rien ne les empêche aujourd'hui de revisiter complètement les codes de ces métiers et même les techniques pour créer des choses totalement nouvelles.
On est vraiment dans des transversalités, des dialogues assez impressionnants.
Voilà,
on ne sait plus vraiment.
Pourquoi ça se passe aux arts déco. On va passer au concret. J'ai envie de dire tout de suite, on va faire monter la sauce autour du taxidermiste. Pardonnez-moi.
C'est la première fois qu'on en reçoit.
Voilà, on sent que ça va attirer le chaland. Blague à part, Célia Casal, ce que vous faites aussi avec la reliure est assez étonnant, impressionnant, parce que là aussi, qui dit reliure, on a des images préconçues. Quand on pense à la reliure, vous avez étudié à l'école Étienne de Paris, donc
oui,
on est vraiment à l'école Étienne de Paris, et puis vous avez ouvert votre atelier près de Dijon. D'abord, vous êtes passé aussi par des ateliers, parce que on finit jamais d'apprendre à l'école.
Non.
Quand on est dans ces métiers-là, il faut de toute façon passer chez les autres. On parlait de transmission tout à l'heure. Vous êtes notamment passé chez Florent Rousseau, qu'on a reçu.
Oui.
Nous aussi, dans Good Luxe Paris. Combien de temps il vous a fallu finalement pour acquérir tout le savoir dont vous aviez envie et besoin ?
Alors, c'est 2 ans de formation où on apprend vraiment les bases. Mais effectivement, c'est en stage et en travaillant dans les ateliers où on apprend la majorité de ce que je sais aujourd'hui, en tout cas. Donc, ça fait 8 ans que je suis dans la reliure. Et effectivement, en 8 ans, on apprend encore maintenant de par ses expériences sur des projets qui sont complètement variés. On innove, on invente de nouvelles techniques. Donc, c'est encore, on va dire, en apprentissage toujours.
Alors, pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous êtes toute jeune. Première question, mais ça montre bien aussi cette volonté, cette nouvelle énergie autour de ces métiers-là. Qu'est-ce qui vous a amené? C'était un hasard, une occasion, c'était un volontarisme de devenir relieuse, si on peut employer le féminin, je crois quand même.
Non, on dit relieur. Voilà, la relieuse, c'est une machine, mais il n'y a pas de souci. J'ai toujours été attirée, on va dire, par les métiers du livre, l'édition. Donc, j'étais avant en graphisme. Donc, il y avait quand même la partie édition qui m'intéressait beaucoup. Et via des portes ouvertes à l'école Estienne, j'ai découvert, en fait, la reliure. Et voilà, c'était un coup de cœur. Donc, j'ai tenté l'expérience et ça m'a plu tout de suite. Et voilà, je suis très contente d'être dans un métier d'artisanat. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de travailler avec mes mains, produire, ça c'est très important.
Et la rencontre aussi, Éric-Sébastien Forlagor se disait tout à l'heure, aujourd'hui on vous voit tous autant que vous êtes beaucoup dans le travail collaboratif, sur des duos, sur des associations, sur des rencontres inattendues. On peut peut-être s'arrêter un petit moment sur ce que vous présentez durant cette exposition d'empreintes du geste aux Arts Déco, correspondance 1917-1948, Louis Joux et André Suarez. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un ouvrage ? Est-ce que c'est une œuvre d'art ?
On va dire c'est un peu les deux. En fait, c'est un livre qui a été édité et avec donc Florian Avier qui est graphiste, nous en avons fait donc une reliure d'art. Donc moi je m'attache à la technique de la reliure, on discute du graphisme, des techniques et de la matière qu'on peut utiliser. Donc là on a vraiment joué sur le papier et le cuir, créé quelque chose de très contemporain en jouant sur le contraste du blanc très pur avec un bleu électrique en cuir d'agneau. Donc et il y a tout ce principe de découpe de papier, de gaufrage, donc une sorte de mise en abîme avec des pleins et des vides.
Non, on est donc, déjà quasiment aussi, quand on refocus sur le papier, on est presque dans des œuvres d'art. On voit certains créateurs d'art contemporain aujourd'hui qui travaillent de cette manière-là.
Le papier est un matériau noble. C'est vrai que les gens l'oublient un petit peu, mais c'est effectivement une matière où il y a des tas de possibilités et ça reste un matériau noble. Et
une question technique, c'est quoi la reliure criss-cross en lanière de cuir ?
Donc c'est la technique, en fait, c'est un entrelacement de lanières de cuir, donc ça peut être du fil. Et en fait, sur cette reliure, il n'y a pas de collage. En fait, ce sont juste les lanières et des fils qui tiennent les cahiers du livre.
Un petit peu à l'image d'un corset ?
Oui, on pourrait dire ça. La reliure, c'est vrai que ça pourrait s'apparenter de toute façon à de la couture, ce principe de corset. Donc c'est un type de reliure qui peut être pérenne, puisqu'on pourrait démonter actuellement le livre et récupérer tous les cahiers intacts. En fait, il n'y a aucun collage dans les fonds de cahiers.
Et ça, c'est des techniques nouvelles ?
Oui.
C'est une conception qu'on n'avait pas l'habitude de voir, parce que j'imagine la reliure pour beaucoup de gens c'est un papier. Alors on sait qu'il y a plusieurs qualités de papier, de façonnage. C'est après souvent c'est toujours les mêmes mots, le velin, l'agneau, tout ça. Les couleurs, vous avez parlé de bleu électrique, c'est un peu inattendu. C'est quoi les champs du possible pour vous? C'est les couleurs, la chromie, le papier, le façonnage,
les matériaux.
Qu'est-ce qu'on ou les matériaux?
C'est vraiment un ensemble, oui. Puisque selon le livre qu'on a envie de relier, c'est ça aussi qui va nous inspirer. On va bien sûr le lire, le découvrir. S'il y a des gravures ou autres. Et en fonction de ça, voilà, on va s'attacher à vouloir utiliser peut-être des matériaux très contemporains. J'ai fait également des boîtes, des choses en plexiglas. Donc on mélange à la fois des papiers traditionnels, du plexiglas. Enfin, on peut aller vraiment dans des choses très très contemporaines en reliure. C'est pas que du cuir. C'est justement un objet d'art pour ça, puisqu'on peut en faire un objet d'art.
Et donc, petite parenthèse, on peut faire appel à vous. Là, on a cet exemple-là, l'exemple de votre savoir-faire en duo qu'on retrouve à l'exposition L'empreinte du geste. Mais vous faites du sur-mesure.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes ouverte à toutes les propositions.
C'est quasiment du sur-mesure.
Historiquement, il y a beaucoup de gens qui arrivaient, qui faisaient relier leurs livres parce qu'ils voulaient habiller leur bibliothèque. C'est un geste et une mentalité qui a disparu. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un public qui est peut-être à nouveau à même de se dire, tiens, je veux maniérer mon livre comme on le faisait avant, mais avec des codes plus contemporains? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent comme ça chez vous pour dire, tiens, j'ai un vieux folio tout pourri, mais j'aimerais bien qu'il ait un petit peu je puisse me l'approprier?
Oui, la reliure, c'est uniquement du sur-mesure, de toute façon. Et effectivement, il y a encore des personnes attachées à un livre, hein, pour une valeur sentimentale, par exemple. Et voilà, on peut s'écarter un peu de la reliure classique, proposer effectivement des papiers imprimés, comme le papier japonais, qui est une technique traditionnelle, mais qui est très contemporain de par ses couleurs. Donc voilà, on peut essayer de se déplacer un petit peu. Oui.
Alors, comme ça, vous nous parliez, Éric-Sébastien Forlagors, tout à l'heure, à côté de cette exposition d'empreintes du geste aux Arts Déco, d'un pop-up store. Vous nous parlez d'objets du quotidien. On va en discuter avec le taxidermiste tout à l'heure aussi, Mathieu Miljabak. L'objet dont on vient de parler avec Célia Casal ne nous semble pas tout à fait des objets du quotidien. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce pop-up store?
Des objets du quotidien. Quand on parle d'objets du quotidien par rapport au métier d'art, on en parlait tout à l'heure par rapport à leur définition, on va parler d'objets utilitaires et décoratifs. C'est pour ça que le travail de Mathieu est essentiellement décoratif plutôt qu'utilitaire. Et on a marqué cette volonté de démontrer que ces images, ces clichés que les gens avaient autour des métiers d'art, d'objets extrêmement chers et qui on attribue souvent le titre de chef-d'œuvre ou d'œuvre d'art, ne le sont pas à l'origine. Ce que l'on voit dans les musées aujourd'hui, type le musée des arts décoratifs, étaient des objets d'usage, extrêmement précieux, mais d'usage. Et donc, on va proposer une sélection d'objets qui vont d'à peu près 40 à 2000 euros pour que justement chacun puisse apprécier la diversité des métiers d'art et s'approprier ces objets. C'est en cela qu'on parle d'objets du quotidien. Toutes leurs productions sont des objets. Célia va y participer avec une collection de carnets d'ailleurs qu'elle a spécialement créée pour l'exposition. Elle a accepté ce défi qu'on leur a lancé avec Florian Avier toujours, et c'était assez amusant dans ce principe de collaboration puisque c'est Florian qui a fabriqué les papiers qui sont donc des papiers type japonais suminegashi pour imaginer cette collection de carnets. Donc on va exposer des collections de carnets, il y aura du foulard, du bijou, des objets un peu plus sculpturaux, et même Mathieu va y participer avec des sculptures donc d'animaux, de pigeons, on peut le dire, puisque sa spécialité est le pigeon.
Voilà, vous nous avez alléché un petit peu. On fait une petite pause sur BFM Business. On se retrouve tout de suite dans Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Les métiers d'art à l'honneur aujourd'hui dans Good Luxe. Et oui, la semaine prochaine, les 1er, 2 et 3 avril, notez-le bien, ce sont les journées européennes des métiers d'art. À ce moment-là, les ateliers, beaucoup d'ateliers vous ouvrent leurs portes. Et puis, de nombreux événements comme cette exposition, ce pop-up store et ce rendez-vous. L'empreinte du geste au musée des arts déco. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Miljavec, taxidermiste, pour en parler, de Célia Casal, relieur d'art, d'Éric-Sébastien Forlagorce, commissaire de l'exposition, de Julien Marchenoir, directeur de la stratégie et du patrimoine de Vacheron Constantin, mécène de cette exposition. Alors juste avant la petite pause, Éric-Sébastien Forlagorce nous a dit que votre spécialité, Mathieu Miljavec, c'était le pigeon. On va voir comment et pourquoi. Vous avez travaillé dans la mode, la haute couture, le graphisme, le design floral, et un jour vous rencontrez la taxidermie. C'est en Écosse que vous l'avez rencontré ou c'est en Écosse que vous êtes allé vous former?
Alors c'est en Écosse que je suis allé me former. J'ai toujours été fasciné moi par la taxidermie depuis que je suis gamin.
Vous rappelez peut-être juste la taxidermie. Allez savoir certaines personnes. Tellement fréquenté cette
chose.
C'est empailler les animaux. Voilà, c'est mieux de le rappeler. Naturalisation des animaux. Oui, empailler des animaux.
Et en Écosse donc.
En Écosse.
C'est la grosse là-bas. C'est pas le pigeon.
Non, en fait, je suis allé en Écosse parce que en France, j'ai trouvé personne pour vraiment m'apprendre et je savais qu'il y avait ce George Jamieson, qui est un très très bon taxidermiste, qui est basé à Édimbourg, qui lui est très a très envie de transmettre son savoir. Donc je suis allé là-bas une quinzaine de jours la première fois pour vraiment apprendre les bases. Et puis j'y suis allé plus par curiosité au départ, vraiment. J'avais envie de voir ce que c'était.
Qu'est-ce que vous plaisait dans la taxidermie? Qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce qui vous magnétisait?
C'est le monde animal. C'est le monde animal à la base, oui. Et puis c'est de rendre pérenne quelque chose qui était voué à disparaître.
Alors, et vous dites que c'est aussi pour montrer l'extraordinaire dans le quotidien. Parce que tel qu'on vous écoute, on a l'impression que on n'est pas à la Grande Galerie de l'Évolution, avec tout le respect qu'on a d'ailleurs pour ces taxidermistes qui travaillent très bien. Vous, votre but final, c'est quand même d'en faire, on en parlait tout à l'heure, des objets de décoration, chose qui transforme, et finalement, on oublie presque qu'il y a ce travail de taxidermiste derrière.
Moi, c'est vrai que je me considère pas vraiment comme un taxidermiste. J'utilise la taxidermie en tant que technique, voilà, absolument. Pour justement, le pigeon, parce que c'est un des animaux les plus banals qu'on est amené à voir, surtout nous,
il y en a
beaucoup. On l'aime pas spécialement, et moi j'aime justement ce travail de transformation, de partir d'une matière entre guillemets qui n'est pas noble du tout, et d'essayer d'en faire quelque chose.
Vous êtes sincèrement très modeste, parce qu'en vérité vous êtes un artiste. C'est vrai que vous avez très bien résumé. Vous prenez la technique de la taxidermie, dont on a l'habitude de voir des pièces quasiment brutes, quand on les voit. Là, c'est véritablement des sculptures. Ça habille l'espace, ça habille notre imaginaire. Non, vous êtes un artiste.
Merci.
Qui se sert juste de support, la taxidermie. Ouais. Mais dans le même temps, avant de revenir à votre travail, c'est tout de même assez étonnant, parce que vous êtes jeune, vous aussi, de voir que ce métier de la taxidermie et ces pièces qui impressionnaient il y a encore quelques années, voire étaient totalement désuets, on voit à Paris, bien sûr avec des rôles, mais pas simplement, il y a une très très jolie boutique rue du Mail, dans le quartier Montorgueil, on voit dans des scénographies d'événements, ou parfois même dans des durant les Fashion Week, quelques défilés, beaucoup de restaurants, ou des hôtels qui osent à nouveau, comment vous expliquez, c'est le côté justement extraordinaire, un petit peu quasiment Edgar Allan Poe qui fait que ça reparle à l'époque. Les gens ont aussi besoin de cette part de rêve.
Je crois. Et puis ça nous ramène à une époque où c'est peut-être un petit peu bateau, mais on est très derrière des écrans, d'être de nouveau confronté comme ça à une réalité, à une nature, qu'elle soit naturelle comme effectivement chez Desrolles ou qu'elle soit un peu plus interprétée comme dans mon travail. Je crois que on a besoin de ça de plus en plus.
Alors, sans tout nous dévoiler, Mathieu Miljavec, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en quoi ça consiste ce travail et comment de votre pigeon de base, du pigeon que vous trouvez dans la rue,
il y a des sociétés qui sont mandatées par les municipalités pour faire des captures, pour gérer la surpopulation, parce qu'il y a vraiment trop de pigeons, c'est une réalité. Absolument. Donc ces sociétés font de la capture, tuent les animaux, et moi je les récupère derrière, en fait.
Et qu'est-ce que vous en faites? Alors, parce qu'au final, on a une envolée rose fluo qui peut ressembler à un lustre magnifique, quand même.
alors qu'on est parti depuis.
Bah on passe, je pars de l'animal, je le nettoie, je le vide entièrement. J'enlève tout ce qui est muscles, chair, tissu, viscère, absolument. Alors c'est beaucoup moins sanguinolent que ce qu'on peut imaginer. Hein. C'est ça vient d'un bloc. Quoi. Encore, voilà.
Bon, ouais, c'est un peu comme quand on vide un poulet. Quoi.
Voilà, exactement, exactement. Voilà, ensuite la peau est nettoyée, traitée. Alors moi je passe par une étape de teinture qui est absolument pas obligatoire, mais qui moi dans mon travail est importante. Et ensuite, je recrée à partir du corps original de l'animal, de l'oiseau, un petit corps. Et je viens tout réassembler comme ça, en passant des fils de fer dans les pattes, dans les ailes.
En jouant sur les plumes énormément aussi.
Absolument. Et une fois que l'animal est vraiment rassemblé, recousu, c'est là où je donne vraiment le mouvement que je veux, en exagérant, en ouvrant les ailes souvent. Vraiment en exagérant le mouvement. Et après, voilà, c'est ou suspendu ou monté sur des supports en métal que je travaille ou que je fais faire.
Et c'est vrai qu'à regarder vos pièces, on est vraiment dans des œuvres artistiques. On en oublie presque le pigeon, en tout cas totalement la taxidermie. Au premier regard, oui. J'ai même pas pensé à la taxidermie. Ah, oui. Alors que si vous allez vous balader chez Derol, on est quand même dans cet univers-là. À petite personnage, j'apprécie beaucoup. Ça ouvre des champs d'imaginaire. Mais là, vous arrivez à la faire presque oublier.
C'est ce que j'entends souvent, effectivement, des gens qui me disent « je pensais pas que ça pouvait être ça aussi, la taxidermie ». Et c'est vrai qu'on a encore, je crois, une image très très traditionnelle de ce que peut être la taxidermie, que ce soit le trophée de chasse ou des choses vraiment très classiques. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans ce que je fais, c'est de faire oublier le côté... taxidermie,
ouais. D'où l'importance de cette exposition, l'empreinte du geste dont vous nous expliquiez tout à l'heure la teneur Éric Sébastien Faure-Lagorce au musée des Arts Déco. Tout ceci est mécené par Vacheron Constantin, plus ancienne manufacture horlogère. Julien Marchenois, est-ce que quand vous dites c'est normal, vous êtes engagé auprès des métiers d'art depuis plusieurs années, sur plusieurs événements aussi, vous-même, on va y revenir dans un instant, vous travaillez avec de nombreux métiers d'art, il y a des collections métiers d'art de Vacheron Constantin absolument sublime. Quand vous entendez ce que font Célia Casal en reliure ou Mathieu Mijalak en taxidermiste ou Jérémy Vintrebert en verrier ou d'autres choses, est-ce que vous imaginiez chez Vacheron Constantin la palette qui n'ont rien à voir avec les métiers d'art que vous utilisez ?
Alors on découvre de très nombreux métiers d'art en fait chaque année grâce aux événements qu'on soutient et finalement c'est à chaque fois un plaisir. On collabore et on dialogue nous-mêmes à l'intérieur de la manufacture avec de nombreux artisans, avec beaucoup aussi d'artisans indépendants. Donc, suivant les créations, on va chercher un spécialiste dans un métier particulier pour travailler sur...
Pas toujours des métiers horlogers traditionnels.
Pas toujours tout à fait, non. On travaille à l'intérieur de nos ateliers. Nous avons des émailleurs, des graveurs, des guillocheurs, des sertisseurs, de nombreux métiers autour de l'horlogerie, dans la décoration, notamment des mouvements. Et puis on va, pour un projet particulier, chercher un artisan laqueur. On va chercher de différents métiers, du travail du bois.
Ça va être difficile avec le papier et les pigeons. Enfin. Mais bon,
alors,
vous interdisez rien.
On ne s'interdit rien. Et surtout, on s'est aperçu, après 260 ans aujourd'hui, plus de 260 ans aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y a de nombreux métiers qui sont confrontés ou qui ont été confrontés aux mêmes problèmes que les nôtres.
Par exemple
Alors, il y a un problème de connaissance des métiers, de notoriété. La plupart du temps, on ne connaît pas ces métiers. Si je vous parle d'un glypticien, la plupart des gens ne connaissent pas ce qu'est un glypticien qui sculpte les pierres fines. Karine,
je commence à connaître un petit peu.
Il y a plein de pudeur.
Il y en a très peu, mais donc il y a un problème de notoriété. La plupart des gens ne connaissent pas ces métiers. Et c'était le cas pour de nombreux métiers à l'intérieur de l'horlogerie. Et on a dû trouver les moyens de les faire connaître. Ensuite, il y a un problème de pérennisation de ces métiers, d'éducation. Comment on s'assure que ces métiers... On a entendu justement monsieur qui cherchait comment apprendre son métier et comment on arrive. Il y a des écoles comme Estienne d'Orve en France.
Ça va, il y a des écoles et des belles écoles. Lui, il a fallu qu'il parte en Écosse, à Edimbourg, dans le froid, nuit.
Il y a quelques écoles, mais qui ne forment pas à tous les métiers. Et donc, il faut encourager les métiers qui ne sont plus enseignés à l'école à être perpétués par des maîtres qui acceptent de prendre des apprentis.
Et d'ailleurs, vous travaillez aussi avec les écoles, parce que là, vous présentez cette semaine votre partenariat avec l'école Boulle.
Tout à fait.
Là aussi où il y a des savoir-faire. Deux étudiants vous ont créé un magnifique écrin de montre. C'était quoi le brief de départ ?
Bah, le brief de départ, c'était en effet de magnifier leur métier et comment ils pouvaient revisiter un écran horloger d'une manière totalement différente. Il se trouve qu'avec tout ce qui s'est passé à Paris, l'inspiration était voilà Paris et Paris Ville Lumière les a enchantés et le dialogue de deux métiers, de graveur, de tourneur sur bois, ont permis à ces deux étudiants de faire un écran magnifique qui en plus a reçu le prix à venir au niveau national.
Le prix à venir des métiers d'art 2015.
Bon, en fait, c'est sur lesquels qu'ils doivent travailler. Un écran façonné en carton, papier, en agneau retourné ou en plume de pigeon.
On peut. Sur l'environnement.
De visite, là, s'il vous
c'est
plaît.
Ça.
Non, juste, vous venez en partie de répondre à la question qui va suivre. Mais dans le cadre terrible de l'exposition, l'empreinte du geste, c'est quoi le mécénat? Est-ce que c'est simplement une financiarisation des choses, qui serait déjà important et intéressant, mais est-ce que vous accompagnez et en amont et en aval? On parlait beaucoup de crowdfunding, ça vous concerne peut-être moins, mais de dialogue, de transversalité. Est-ce que par la suite, tous ces artistes et artisans qui vont participer à l'empreinte du geste, vous les accompagnez aussi? Est-ce que vous faites partie du comité de sélection? Parce que j'imagine qu'il y a aujourd'hui beaucoup de métiers d'art, 16 exposants, il faut bien les sélectionner. Ça commence où et ça finit où, un mécénat en 2016?
En 2016? Alors, pour nous, au-delà du soutien financier, quelque part, qui est important, qui est nécessaire, on apporte beaucoup d'importance au message que va porter le projet. Et donc, voilà, l'année dernière, on était, vous en parliez, l'importance de faire reconnaître que ces métiers sont très pertinents dans le monde d'aujourd'hui.
Contemporains.
La création sont contemporains, sont pas simplement là pour restaurer le patrimoine matériel que l'on peut avoir dans nos musées ou dans nos maisons. Cette année, le message, comme le soulignait Eric Sébastien, c'est de mettre en avant l'humain, de montrer que ces métiers d'art sont à la portée de chacun, d'enlever des barrières finalement. Et donc, on s'implique en amont dans la réflexion sur comment on peut souligner au mieux ces enjeux, les relever avec une exposition, en essayant de faire quelque chose de différent à chaque fois. Et là, d'être au-delà, finalement, on appelle ça une exposition. On va au-delà d'une exposition puisque c'est multifacette. Il y a le pop-up store, il y a des masterclass, il y a des projets de crowdfunding. Et on peut montrer jusqu'où on peut aller, en fait, en parlant de métiers d'art pour gagner en proximité.
Et surtout que tout ceci n'est pas figé. C'est peut-être ça le message.
Tu deviens des ateliers ouverts.
Tourner vers demain. Et on rappelle donc effectivement que c'est dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Donc, bien sûr, ils vont vous présenter quelques-unes de leurs créations durant cette exposition d'empreinte du geste, mais on peut peut-être aller les voir dans leurs ateliers. C'est ça, vous ouvrez vos ateliers l'un et l'autre. Donc, vous vous trouvez où, Mathieu? À Pantin. Ouais. On ira à Dijon.
À Bourguignon, très bien. Vous l'aviez dit tout à l'heure. En plus, Dijon va monter en L1.
Et sinon.
On est tous ravis. Mais si, faut le dire.
Et sinon, ça se passe aux Arts Déco, l'empreinte du geste aussi jusqu'au 3 avril avec ses différents rendez-vous. Merci beaucoup à vous,
merci.
Mathieu Miljavac, Célia Casal, Éric Sébastien Fort-Lagorce et Julien Marchenor pour Vacheron Constantin. Merci beaucoup à tous les quatre et surtout allez voir sur place. Vous verrez encore mieux comment ça se passe et la beauté du geste. Allez, restez avec nous, Goodlux continue dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, Goodlux vous emmène voyager avec mymoonspots.com et Capucine Grabi. Mais pour l'heure, le livre de la semaine. Et finalement, c'est aussi un voyage dans le temps, un voyage dans le temps de la mode et un voyage dans les techniques. Issey Miyake, sorti chez Taschen, un magnifique ouvrage. C'est véritablement la poétique du vêtement, technique et matière, originalité des textures. Vous savez, Issey Miyake, c'est ce fameux plissé. C'est un livre indispensable pour les designers, les passionnés de mode, les étudiants, une véritable monographie.
Il a travaillé l'étoffe et le tissu, un peu comme on travaille le papier.
C'est
de l'origami adapté à la mode. C'est au-delà, c'est surtout la grande âge d'or dans les années 80,
80
de cette
90, ouais.
Génération dorée. Des grands créateurs japonais, Yamamoto, Miyake, à sa manière Kenzo. Ouais, c'est des vraies pierres blanches de la mode.
Oublié, mais dès la fin des années 90, Issey Miyake avait laissé ses collections à son bras droit pour se consacrer pleinement à la recherche. C'est véritablement un chercheur de la mode. C'est assez incroyable. Et donc, cette monographie chez Taschen fait écho à l'exposition Issey Miyake qui se tient au Centre National des Arts de Tokyo. Voilà, allez, on s'envole. Good Lux d'ici et d'ailleurs.
Good Lux Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Rabhi, bonjour.
Karine.
My Moon Spot et vos adresses. Ce que j'ai dit, on s'envole, on n'est pas forcément forcé de prendre l'avion aujourd'hui avec vous.
Hein. Non, on peut prendre le TGV, 3h30 et bientôt 2h. Emmanuel, un TGV, 2h de Paris.
Côté
ça
ouest.
Nous emmène côté ouest, Atlantique. Enfin, pas loin de l'Atlantique.
Atlantique.
Une ville.
Je sais pas, Bordeaux.
Voilà. Bordeaux, 2h de TGV en juillet 2017. Ouais, c'est demain.
Ça. Ah ouais. Juillet 2017.
Demain, c'est dans un an. C'est demain, ça me donne envie de m'y installer.
Ouais. C'est ce que disent beaucoup de gens, hein, quand ils ont passé un week-end à Bordeaux. Désormais, ils disent j'ai envie de m'y installer.
Bordeaux.
Mais moi, je cherche.
Il y a de très belles maisons.
Il y a de très belles maisons.
Très beaux hôtels. Vous avez déniché la perle rare.
C'est vrai que je me suis souvent arrêtée à Bordeaux sur le chemin de mon Pays Basque favori. Et je peux vous dire que j'ai jamais trouvé la perle rare. Donc je ne viens pas les mains dans les poches en vous disant je suis rentrée dans un hôtel et je l'ai trouvé bien. Vraiment, ça a été compliqué parce que il y a beaucoup d'hôtels fatigués, des grands hôtels sur des places un peu vieillottes. Ça a été difficile de trouver un lieu qui corresponde à My Moon Spot. Il y a quelque chose qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps et qui m'a beaucoup plu, voire qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Un petit écrin, 12 chambres et suites simplement. Attention, il est prêt à noter le nom. Je le vois. 12 chambres et suites.
12 chambres et suites.
Des designers de renom, Damien Langlois-Meurine ou Hubert Le Gall, et surtout un nom. Alors attention, notez-le bien parce que c'est un nom qui a été spécialement créé pour l'hôtel. Ça, c'est assez rare. Un nom aux tonalités japonisantes. Ça va avec Issey Miyake et le Palais de Tokyo à l'instant. Ça s'appelle Indo Y. NDO, et donc c'est un nom qui a été créé spécialement pour cet hôtel. En fait, c'est un voyage, cet hôtel Indo. Un voyage dans Bordeaux, d'ailleurs, parce qu'on passe la porte de cette cour pavée, on observe des écuries, des plantes grimpantes, donc on pénètre un lieu un peu à part, et puis c'est un voyage dans l'histoire, parce que c'est une très vieille bâtisse, un hôtel particulier d'époque, un peu gigantesque, avec des volumes incroyables. Donc, un voyage dans l'histoire, et c'est l'élégance mariée à l'histoire.
C'est un peu planqué. Quand même.
C'est un peu planqué, c'est à deux pas du triangle d'or. Moi, j'ai craqué pour deux choses. D'abord, l'exploitation de ces volumes qui sont exploités sans concession. Parce que, je vous dis, cet hôtel particulier, c'est des hauteurs sous plafond de 3-4 mètres. Donc, il fallait vraiment, pour la propriétaire dont on va parler, travailler son imaginaire, s'approprier ces volumes et se dire comment est-ce que je peux faire le grand écart entre le froid qui peut être un peu glacial en hiver à Bordeaux, il faut bien le rappeler, il peut faire chaud en été, mais il peut faire froid, et ces volumes importants.
Vous nous parliez d'une douzaine de chambres et suites. Ce qui est bien, c'est que chaque chambre est différente. Vous pouvez revenir 12 fois, vous ne vous arrêtez pas
chaque
dans le même
chambre est différente. Il y en a même, je vous dis, qui sont dans les écuries qui sont au fond de la cour. Effectivement, vintage, couleur, blanc, beaucoup de violines.
Cette propriétaire, qui est-elle?
Cette propriétaire, c'est vrai que j'aime bien parler des propriétaires. Je crois qu'il fallait vraiment quelqu'un qui incarne ce lieu et qui bouscule un peu les codes du luxe. Je vous dis, 12 chambres, on est dans un hôtel, mais on est vraiment dans l'intimité d'une chambre d'hôte avec quelqu'un qui vous accueille, qui vous reçoit, qui peut vous faire à dîner si vous avez envie de dîner. Je l'ai vu à 19h mettre la main à la pâte pour des clients qui étaient là et qui avaient envie de goûter sa cuisine. Donc on est vraiment dans un concept un peu hybride entre la chambre d'hôte et l'hôtel. Et elle se mue finalement en chef d'orchestre pour organiser des expériences, faire partager son amour de ce lieu. Elle a visité des dizaines de lieux à Bordeaux, mais c'était le premier qu'elle a vu, et c'est celui pour lequel elle a vraiment eu un coup de cœur.
Et comment elle s'appelle ?
Cette personne s'appelle Agnès Guillot, et en fait c'était la propriétaire du Caritz à Biarritz. Elle a tout envoyé balader un jour en se disant 12 ans de saisonnalité trop importante à Biarritz. Je veux justement m'ancrer un peu plus dans une ville, et il y a beaucoup de gens qui viennent à Bordeaux.
Vous nous parliez d'expérience à l'instant, Bordeaux. C'est bien sûr, c'est le vin, c'est la cité du vin, il y a un des spas autour du vin.
Caudalie, oui.
And so what?
Il y a effectivement le Cap Ferret qui est tout près. Très bling-bling, très vu. Moi, je voudrais vous parler...
Pas bling-bling.
Un peu. Si j'y vais toujours
bling,
un peu.
Je sais pas, c'est sévère.
Peu. Un peu. Alors bon, si vous allez sur le Pont d'Arguin, vous croisez quelques stars. Moi, je vous emmène à l'île aux oiseaux. Donc, les deux cabanes chanquées, ces petites îles qui sont juste en face. Et à l'île aux oiseaux, donc, il reste quelques cabane de pêcheurs, mais il y a également des canaux qui zigzaguent avec de l'eau qui traverse cette île aux oiseaux. Et je vous propose de
mettre quelques kayaks à l'arrière du bateau que vous allez louer au Cap Ferret et d'aller faire du kayak dans ces canaux. C'est vraiment une expérience assez originale. Vous pouvez louer les kayaks à l'herbe, au village de l'herbe. Il y a un loueur, vous mettez les kayaks à l'arrière du bateau, vous partez et là vous pouvez pagayer, caboter pendant l'après-midi. À la fin de 2 heures au milieu de ces canaux, vous discutez avec quelques pêcheurs et vous êtes complètement dans un environnement complètement différent qui frôle un peu le luxe du Cap Ferret mais qui reste ultra authentique avec cette vue incroyable sur les cabanes chantées.
Un flagrant délit de nature, l'île aux oiseaux.
Et il y a une plage à la fin, sable fin.
Ah, mais ça, c'est la récompense. Et si on veut dormir au Cap Ferret?
Si on veut dormir au Cap Ferret, eh ben, ce sera, ah oui, ce sera une, alors, il y a des hôtels, mais il y a aussi des maisons particulières qu'on peut retrouver.
C'est ça, qui sont à retrouver sur votre travel store, My Moon Spots. Non, on n'a plus le temps, Emmanuel.
Oui, oui, une question, je réponds à la question.
Non, c'est juste pour apporter de l'eau à votre moulin. Ce que vous disiez, Bordeaux est une ville qui en, vraiment qui est muté en termes des paysages, d'architecture, d'organisation de la ville.
De nouveaux quartiers aussi.
De nouveaux quartiers. L'hôtellerie était un peu à la ramasse, ça bouge. La gastronomie, j'en parle même pas. Bordeaux, c'était quand même l'une des plus grandes villes françaises avec cette énergie du vin qui avait très peu de grands restaurants. En moins d'un an et demi, c'est devenu la nouvelle scène où toute la scène bistronomique, les nouveaux restaurants cosmopolites s'installent. Et puis surtout, les grands chefs en ont fait, en moins d'un an, leur nouveau terrain de jeu favori, Robuchon, avec une adresse épatante. Philippe Etchebest, vous savez, la grande gueule cathodique, ouais, qui relance la brasserie de l'Opéra dans la belle énergie. Et puis Gordon Ramsay, qui s'installe et qui s'installe à Bordeaux. Tout cela donne enfin à Bordeaux une scène gastronomique qui participe de ce que vous disiez. Enfin, on trouve un propos à la hauteur de la ville.
Voilà. Il se passe quelque chose, il faut y filer.
Merci beaucoup Capucine Grabi, on retrouve tout ça sur My Moon Spots. Allez, l'agenda.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Emmanuel, on commence par des cours culinaires.
Ouais, ça encore longtemps. Un grand chef, moi je ne peux pas m'en passer. Non mais on a parlé il y a 2-3 semaines je crois des cours d'Alain Ducasse à Paris intramuros, ouvert au public. Il y a beaucoup de cours de cuisine, mais très peu finalement de grands chefs qui, en personne, en live, viennent partager leur savoir. Il y a Cyril Lignac, il y a Ducasse de temps à autre, plutôt son équipe, la Guy Martin, dans l'enceinte même de son grand véfour du jardin du Palais Royal. Donc vous allez vraiment profiter de vraies cuisines de professionnels, de vraies cuisines d'un restaurant, et dans cette humeur, à nul autre pareil, qui est celle du grand véfour. Alors c'est un restaurant plus que centenaire, mais pour fêter les 25 ans de sa présence au grand véfour, il orchestre deux samedis par mois, des cours pour une dizaine de personnes maximum et c'est des ateliers d'une heure, de 2 heures ou de 2h30 ou de 4h dédié à la pâtisserie ou bien à un menu complet ou bien à un plat à dessert. Vous discutez avec le chef de ce menu-là, vous avez vraiment des coups de savoir-faire, c'est impressionnant de cuisiner dans des vraies cuisines, non pas professionnelles mais encore mieux, des cuisines de restaurant. Allez, je vous donne le numéro de téléphone pour réserver, pour vous inscrire puisqu'il y en aura 2 par mois à partir de ce mois-ci, donc le mois d'avril. C'est les 01 80 91 93 12, vous demandez Romaric et vous allez avoir un cours particulier, là c'est mieux que le coaching, par Guy Martin lui-même. Et c'est vraiment un chef qui sait partager. C'est-à-dire voilà. Il a le sens didactique des choses.
Un grand chef, un grand restaurant pour les cours culinaires. Guy Martin au Grand Véfour. On termine rapidement. Vous connaissez, vous avez déjà pris la compagnie Capucine Grabi. Cette
la compagnie
classe affaires uniquement entre Paris
pris.
Et New York. Et ben voilà, qui a été lancée récemment. Et là, ils accompagnent souvent des petites entreprises, des petites sociétés, des créateurs. Et là, il y a la créatrice Anne-Sophie Baillet. Sa marque, ça s'appelle Atelier Paulin. Vous avez sûrement vu, ce sont des petits bracelets à message où souvent on met un prénom. C'est simplement le fil du bracelet et vous écrivez par exemple votre prénom, love.
Alors,
que
le lien entre le bracelet et la compagnie.
Eh bien, parce que Atelier Paulin a été sélectionné pour représenter la France à l'occasion de la 16e édition du LOT au Museum of Arts Design. Alors, donc, ce qui met en avant les savoir-faire et les créateurs. Du 11 au 16 avril, ça se passe à New York. Et la compagnie lui dit, moi, je vous propose de venir sur notre vol. Et pendant le vol, il propose aux passagers de la compagnie de vous faire un petit truc personnalisé. Donc, si vous êtes une femme, un petit bracelet.
Génial.
Ou une petite fibule pour les hommes. Sochic comme
c'est,
service.
Ça, c'est vraiment nouveau.
Voilà.
Alors là, franchement.
Une petite expérience pour moi.
C'est une belle expérience.
Il y a 7 heures de vol.
Je vais peut-être aller raconter mes histoires pendant les vols.
Ben voilà.
Vous demandez un bracelet. Non, vous allez passer mon bracelet, un message à la jeune fille qui est au bout là.
Ouais, c'est pas mal ça.
Merci beaucoup, Capucine Grabi. Merci. Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Restez encore un petit peu avec nous. Good Luxe Paris, c'est le best-of de la semaine tout de suite sur BFM Business.